Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
La PMA pour toutes, adoptée ce soir à une très large majorité à l'Assemblée nationale, 359 voix contre 114. On voit dans une minute ce qui reste précisément dans le texte qui prend maintenant la direction du Sénat.
À la une également, l'alerte du Fonds monétaire international sur la croissance mondiale. Toutes les prévisions revues à la baisse. Il n'y a plus de place pour les erreurs politiques, dit le Fonds monétaire.
La campagne de vaccination contre la grippe débute et désormais vous pouvez procéder à l'injection directement en pharmacie. On vous expliquera tout. Enfin, Rudy Garcia, nouvel entraîneur à l'OL, à la rencontre des supporters lyonnais, chez qui il ne fait pas l'unanimité, vous verrez.
La couleur du ciel, Anissa ?
Gris demain, très gris, surtout dans le nord, avec encore des averses soutenues et puis surtout des températures en baisse.
Europe 1.
C'est la première étape, mais elle est particulièrement symbolique et importante. Après 80 heures de débat, la loi bioéthique qui autorise notamment la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, la PMA, a donc été très largement adoptée ce soir à l'Assemblée. 359 voix pour, 114 contre, sous les applaudissements de la majorité, ce qui réjouit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Je veux encore une fois vous remercier pour ce grand moment de démocratie que nous avons vécu à l'occasion de ces débats. Aucun consensus n'est possible sur ces questions et pourtant nous avons énormément travaillé ensemble avec sérénité, avec respect, avec profondeur. Peu de débats aujourd'hui ont cette qualité, je tiens à vous remercier au nom de tout le gouvernement.
La ministre de la Santé Agnès Buzyn dans l'hémicycle.
Bonsoir Virginie Riva.
Bonsoir.
Le texte va maintenant être transmis au Sénat où il sera discuté en janvier. Il y avait des points importants en débat. Qu'est-ce qui a été voté ce soir précisément ?
Alors la mesure phare, c'est évidemment l'extension de la PMA aux mères seules et aux couples de femmes homosexuelles. Pour ces dernières, il y a dans cette loi une révolution sur la filiation. Elles devront désormais signer une sorte de contrat chez le notaire et aucune des deux mères n'aura de supériorité sur l'autre, qu'elle ait accouché ou pas. Autre mesure fondamentale, l'accès aux origines. Une garantie pour chaque enfant qui naîtra dorénavant de PMA avec don de sperme, il aura le droit de connaître son géniteur à ses 18 ans. Autre acquis de la loi, la possibilité donnée aux femmes de conserver leurs ovocytes. Ce qui est très surprenant, c'est que tout est passé assez facilement, malgré les oppositions de la droite et de la Manif pour tous, des oppositions exprimées dans un hémicycle assez clairsemé, où seuls les spécialistes du sujet sont restés. Raison notamment pour laquelle il y a eu un couac à la dernière minute, cet amendement passé dans la nuit sur les enfants nés de GPA, supprimé depuis, il n'est nulle part question de GPA dans cette loi. Maintenant, le texte arrive au Sénat où les sénateurs sont vent debout contre l'ouverture de la PMA aux mères seules. La loi n'est pas là, selon eux, pour créer des familles monoparentales et contre le remboursement de la PMA par la Sécurité sociale pour les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles. L'examen risque d'y être plus houleux, mais au final, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1. Autre mesure adoptée ce soir, le bracelet anti-rapprochement destiné à protéger les femmes et éloigner leur conjoint ou ex-conjoint violent, dispositif adopté à la quasi-unanimité à l'Assemblée.
Et on retient également ce soir la déclaration du Premier ministre alors que le débat sur la laïcité était relancé et qu'il divise la majorité. Édouard Philippe a tranché pour l'instant.
Il ne souhaite pas, en tout cas, de loi pour interdire aux mères d'élèves de porter le voile lorsqu'elles accompagnent une sortie scolaire. Il souhaite plutôt se concentrer sur la lutte contre les dérives communautaires. Déclaration faite devant les députés pour mettre fin à la cacophonie qui régnait dans la majorité.
À la une également, ce gros coup de frein sur la croissance mondiale. Le Fonds monétaire international lance l'alerte.
Le FMI vient de revoir en très forte baisse sa prévision de croissance pour cette année, 3%. Plus faible niveau depuis la crise financière de 2012. Emmanuel Duteil, comment ça s'explique ?
Eh bien, la raison principale, c'est la guerre commerciale que se mènent en ce moment même les États-Unis et la Chine. Même s'il y a des petits espoirs d'armistice, ces tensions pèsent fortement sur le commerce mondial. Il faut en plus ajouter à cette guerre le Brexit, dont personne ne connaît vraiment l'issue, les tensions au Moyen-Orient ou en Turquie, ou encore le ralentissement de l'industrie automobile. Tout ça pèse donc sur la croissance. Un exemple, l'Allemagne. Berlin est très dépendante de ses ventes à l'étranger et de son secteur automobile. Du coup, la croissance ne devrait pas excéder là-bas un demi-point cette année. Une contre-performance qui va peser sur toute la zone euro. Chose assez rare, la France fait presque office de bon élève. La croissance devrait atteindre chez nous 1,2% cette année. C'est dû en grande partie aux mesures de soutien au pouvoir d'achat décidées après la crise des Gilets jaunes. Mais ça pourrait ne pas durer et c'est pour cela que le FMI estime qu'avec une telle croissance mondiale, Il n'y a pas de place pour les erreurs politiques, le fonds qui exhorte les décideurs politiques à réduire urgemment les tensions commerciales.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Quelques heures ont éclaté ce soir en marge de la fin du cortège de la manifestation des pompiers aux abords de la place de la Nation. La tension est montée au moment de la dispersion des manifestants et des dizaines de grenades lacrymogènes ont dû être tirées par les forces de l'ordre. Notre envoyé spécial sur place, Jean-Jacques Héry, nous signale que la tension est redescendue depuis.
La campagne de vaccination pour la grippe, elle a débuté ce matin. Pour la première fois, les pharmaciens sont autorisés à procéder aux injections.
Oui, pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou les femmes enceintes ou certains malades chroniques, tous ceux à qui on recommande cette vaccination, ils peuvent se rendre directement en pharmacie. Caroline Baudry a assisté aux premières piqûres.
Dans cette arrière-boutique transformée en salle de vaccination, au milieu des stocks de médicaments, Chantal a pris place sur un petit fauteuil. À 89 ans, le vaccin contre la grippe pour cette retraitée, c'est chaque année.
Pas de température ?
Non.
Allez hop. Tout va bien.
J'ai rien sorti. Comme ça, je suis débarrassée. Surtout que je ne peux pas tellement sortir.
Chantal en a eu pour 10 minutes et elle est déjà la 20e patiente de Stéphane. Ce pharmacien de Paris enchaîne les piqûres depuis ce matin. C'est sans rendez-vous, gratuit et tellement pratique, cette alternative à la vaccination chez le médecin.
Une petite appréhension pour la première, mais tout se passe bien. Il suffit de bien faire les choses comme on nous les a apprises. Et c'est aussi pour montrer que même les pharmaciens d'officine sont dans la capacité de faire ce genre de petits actes.
Une pharmacie sur deux s'est donc prêtée après formation à la vaccination contre la grippe.
Reportage signé Caroline Baudry.
Les tensions autour de la situation en Syrie à présent, Jean-Yves Le Drian va se rendre en Irak.
Pour discuter de la sécurité des camps où sont détenus les djihadistes étrangers, échanger notamment avec des représentants kurdes alors que la Turquie poursuit son offensive dans le nord de la Syrie voisine. Offensive qui se poursuivra avec ou sans le soutien du monde, dit ce soir la présidence turque. En dépit des menaces de sanctions, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu dans les heures qui viennent.
Et après les saluts militaires effectués par les joueurs turcs pour célébrer leur but hier soir au Stade de France, on apprend que l'UEFA ouvre une enquête.
Enquête disciplinaire contre la Turquie, geste observé aussi contre l'Albanie, potentielle provocation politique, estime l'UEFA. Le foot, c'est aussi en France, en Ligue 1, le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, Rudy Garcia. Il a été officiellement présenté en fin de matinée et il est allé échanger cet après-midi avec les supporters. Alors, il fait l'unanimité du côté des dirigeants, pas spécialement du côté des supporters. Vous allez l'entendre dans ses propos recueillis par Jean-Luc Boujon à Lyon.
Très déçu en tant que supporter, très déçu. Je pensais que c'était Laurent Blanc et sachant ce qu'il a fait Rudy Garcia un peu de partout, j'ai pas l'impression que ce soit l'homme de la situation. Laurent Blanc, il apporte du jeu. Avec Laurent Blanc, je pense qu'on se serait régalé au niveau football. Quoi. Rudy Garcia, son système de jeu me plaît pas du tout.
Il a quand même eu des bons résultats ailleurs où il est passé, à Lille, à la Roma.
Ouais, mais à Marseille, ça s'est quand même mal fini. Quoi.
C'est pas trop mal non plus. Faut lui laisser sa chance. Ouais. Surtout qu'il garde tous les effectifs qu'il avait d'entraîneur de Lyon. Faut lui laisser sa chance.
J'aurais préféré Laurent Blanc, moi, personnellement. Je pense que quelqu'un comme Laurent Blanc, c'est quand même quelqu'un. Il a fait ses preuves aussi. Il a été champion du monde en 98 en tant que joueur. Les joueurs de maintenant, je pense qu'il faut avoir un entraîneur qui ait du charisme, qui puisse s'imposer pour qu'il ait de l'écoute. Au niveau personne à respecter, je pense que Laurent Blanc avait quand même un charisme plus important que Rudy Garcia.
On lui laisse quand même une petite chance.
Il faut, puis on n'a pas le choix.
Bah oui, il n'y a pas le choix. Les supporters au micro de Jean-Luc Boujon, l'OL qui va essayer de rebondir 14e de la Ligue 1 aujourd'hui. L'OL attendu contre Dijon samedi 17h30.